les frères de passage, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. De suite, quand on dit le chapitre 11, ce qui résonne, c'est la foi. Chapitre 11, verset 30, à partir du verset 30, Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Que d'expériences dans ces quelques versets que nous avons lus, que de mouvements, de puissance, d'intervention divine. Il y a vraiment des choses étonnantes, des choses qui nous surprennent, bien sûr. Il y a des choses qui nous interrogent dans ces quelques versets que nous avons lus. Et le nom de celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux n'est pas connu. Mais nous savons qu'il a été inspiré de Dieu. Quand nous voyons la profondeur du message, l'exhortation puissante qui nous est donnée au travers de l'Épître aux Hébreux, il y a de quoi faire monter notre foi. Quand nous lisons tout l'Épître aux Hébreux, eh bien, il y a vraiment des enseignements remarquables. Le dénominateur commun, les Juifs, pardon, étaient les destinataires de cette lettre, des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, et de longue date, ils s'étaient convertis, et il y avait comme un relâchement, il y avait comme un découragement, un désir de revenir pour certains aux traditions, à l'ancienne alliance, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire une exhortation remarquable concernant Jésus-Christ. Je crois qu'il n'y a pas mieux dans toute cette... comme il dépeint Jésus tout au long du chapitre 1er jusqu'au chapitre 13, eh bien, le Seigneur est dans toute sa puissance et sa beauté. Il les exhorte à la foi en Christ. Et là, eh bien, toutes les portes sont ouvertes. Par la foi en Christ, toutes les portes sont ouvertes, tous les chemins sont frayés. Toute espérance est permise. La foi en Christ nous permet, eh bien, d'entrer dans la vie de Dieu, dans le repos de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, dans les choses célestes, dans les choses d'en haut. La foi en Christ. Quelqu'un a dit, si nous enlevons la foi à la vie chrétienne, il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de divin, il y a juste une morale. Sans la foi. Donc, nous avons lu ensemble également le passage que nous avons lu, eh bien, comme le but du chapitre 11, le dénominateur qui revient, c'est par la foi. Alors quand nous regardons le chapitre 11, les premiers personnages que nous lisons, on les regarde comme des géants de la foi. Quand on parle de Noé, quand on parle d'Enoch, d'Abraham, de Jacob, Joseph, quand on regarde Moïse, ils sont comme des géants de la foi. Et c'est impressionnant, et on se dit, mais comment arriver à... Mais quand on continue la lecture et le texte que nous avons lu dans les premiers versets, eh bien, il y a déjà des personnages avec moins d'envergure. Quand on parle de Barak, quand on parle, eh bien, de Gédéon, et quand on continue, il y a des anonymes. On n'a pas leur nom. Il n'est pas cité. Mais pourtant, ils ont eu la même foi. Les géants de la foi que nous voyons dans les premiers versets, eh bien, ils n'ont pas une plus grande foi que ceux vers la fin de ce chapitre 11. Et encore, je dirais qu'il faut une plus grande foi pour ceux qui n'ont pas obtenu les promesses que pour ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Il faut une plus grande foi. Certains n'ont pas accepté même, et nous le verrons dans quelques instants, ils n'ont pas accepté eh bien, la délivrance que le Seigneur leur proposait. Ça nous semble étonnant. Nous, on prie pour la délivrance, on prie pour ceci, pour cela. On se dit, mais certains ont dit non. Je préfère ne pas être délivré et obtenir une meilleure résurrection. Ça nous échappe, c'est au-dessus de notre entendement quand on lit ces choses, mais le Seigneur est tout-puissant. Voilà ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Quel précieux trésor! Et encore, il est dit que le temps lui manquait pour dire encore d'autres choses. On aurait aimé qu'il ait plus de temps, celui qui a écrit. Hein. Il dit, le temps me manquerait pour parler de Barak, de Samson. Oui, ça aurait été bien, mais bon, le Seigneur en a voulu ainsi. Alors il y a, pour ces personnes-là, eh bien, il n'y a pas leur nom qui est cité. Quel héritage formidable! Quel précieux trésor! Des hommes et des femmes qui ont marché par la foi... Dans l'Ancien Testament, ne l'oublions pas, ils étaient dans l'Ancien Testament et ils nous ont laissé un héritage, ils nous ont laissé un trésor précieux. Ils nous disent, quoique mort, ils parlent encore par l'Écriture, ils nous disent, voilà le chemin, nous l'avons traversé, nous avons ouvert la voie, nous avons déblayé, maintenant vous pouvez y marcher, nous avons marché par la foi, vous pouvez marcher par la foi. Ça c'est, waouh, c'est bien quand ça reste pas de la théologie pure, mais des hommes et des femmes ont mis en pratique, ont expérimenté la grâce de Dieu, ont expérimenté la puissance de Dieu, et on se dit, mais pour nous aussi, c'est possible. Amen. Pour nous aussi, c'est possible. C'est pas juste un texte qui est là, c'est pas juste quelques promesses hypothétiques, oui, peut-être, on lance comme une bouteille à la mer. Non! Les promesses, elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Quel héritage laisserons-nous, nous, après, aux enfants, aux petits-enfants? Quel héritage allons-nous laisser? Je ne parle pas d'un héritage matériel, hein. Mais quel héritage spirituel laisserons-nous à nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui seront derrière, si Dieu tarde, si Jésus tarde à venir? Quel héritage? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Eux, ils nous ont laissé un héritage, ils nous ont laissé de l'espérance, ils nous ont laissé un chemin frayé. Mais ceux qui viendront après nous, quel héritage leur laisserons-nous en pensant à nous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que on leur laissera quelque chose? Sauront-ils que nous avons vécu par la foi? Est-ce qu'ils le sauront que nous avons vécu par la foi? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'ils l'auront entendu? Est-ce qu'ils auront vu des expériences, des témoignages, en disant, oui, bon, mon grand-père, mon père, ma mère, c'était une femme de prière, une femme de piété, ils ont vécu par la foi, ils n'avaient rien et le Seigneur a pourvu. Voilà les expériences, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Eux, ils nous ont laissé un héritage formidable. Moi, je bénis Dieu en relisant ces quelques versets, je bénissais le Seigneur, je me dis, mais c'est pour nous un encouragement. Des êtres humains avec leurs faiblesses, avec leurs limites, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu le Seigneur conduire leur vie. Est-ce que nous saurons-ils, ceux qui viennent après nous, que nous avons aimé le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être? Est-ce qu'ils le sauront? Est-ce qu'ils diront, oui, ils ont aimé le Seigneur par-dessus tout. Eux, ils nous ont laissé un héritage. Nous, que laisserons-nous? Est-ce qu'ils sauront, eh bien, que nous avons craint Dieu, que nous avons respecté la Bible, que nous étions des disciples de Christ? Est-ce que ça restera, ça? Quand ils se souviendront, est-ce que ça va rester? Est-ce qu'ils se diront, eux, ils ont pu marcher comme cela, ben, nous aussi, on veut marcher. Nous aussi, on veut suivre ces traces de la foi, de l'héritage spirituel. On veut aussi prendre la Bible, peut-être qu'ils avaient, et pouvoir la méditer. Ils ont fait tellement d'expériences avec cette parole. Nous voulons la reprendre. Et certains, au milieu de nous, nous avons des Bibles qui ont appartenu à des parents, à des personnes âgées qui nous l'ont léguée, cette parole. Et quand nous l'ouvrons, cette parole, nous disons, mais ils ont passé des nuits, ils ont passé des jeûnes et prières avec la parole, et ils ont vu la gloire de Dieu. C'est beau, on se dit, mais oui, c'est possible, par la foi. Dieu aime quand son peuple ose lui faire confiance. Eh bien, Dieu témoigne au monde que nous lui appartenons, que nous sommes son peuple. Quand nous osons lui faire confiance, quand il n'y a pas d'autre espérance, d'autre issue que Dieu, eh bien nous voulons lui faire pleinement confiance. Par la foi. Je crois qu'il y a une vingtaine de versets, je n'ai pas compté, mais qui nous parlent par la foi. Par la foi. Alors la foi, Hébreux 11.1 nous dit, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme confiance dans la parole vivante, je lis. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors la foi, on pourrait y associer avec la foi, autour d'elle, il y a l'invisible. Autour d'elle, il y a la difficulté. La foi, elle est inséparable des épreuves, des difficultés, de l'invisible, de l'impossible. C'est dans ce milieu-là, dans ce terreau, que la foi va se manifester. C'est pas évident, nous on aimerait que ça soit un long fleuve tranquille, qu'on prie, paf, le Seigneur exauce, tout va bien, on roule, la vie va... C'est pas comme ça, la foi véritable, la foi biblique, eh bien elle est entourée de ce terreau-là, et c'est dans ce terreau qu'elle va germer, qu'elle va grandir, qu'elle va se manifester, cette foi dont nous avons tellement besoin. La foi dans le présent, mais surtout la foi dans le futur. Nous vivons des temps difficiles, et nous le disons chaque fois, et puis c'est même pas la peine que je le dise, nous l'entendons partout, les temps où tout est incertain, tout est, il y a pas de certitude, on nous dit pas exactement parce que personne ne le sait. On est là dans toutes ces sortes de crises et il y en a plusieurs de crises, pas seulement la crise sanitaire, mais associée, il y a beaucoup d'autres crises. L'avenir est incertain. Et nous pensons aux enfants, l'avenir est incertain. Dans notre pays, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans ces temps que nous vivons, nous devrions encore plus nous confier dans le Seigneur, encore plus lui faire une confiance. Et je dis c'est paradoxal parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi ? Alors c'est là où nous devons manifester encore davantage et nous devons tout faire pour que cette foi soit étayée, cette foi grandisse, nous devons méditer la parole, repasser les promesses sur notre cœur pour que cette foi elle soit étayée. Et Jésus dit, justement dans ces temps-là, dans les églises, parce qu'il ne parle pas de trouver la foi dans la rue, c'est trouverai-je la foi où? Au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'église, trouverai-je la foi? Mais c'est quand même... Waouh, ça nous interpelle, on se dit, mais nous devrions encore plus faire confiance au Seigneur parce que ça bouge. Et plus ça bouge, plus on se sent limité, on se sent, faible. Eh bien, il est dit que, est-ce que je vais trouver de la foi? Bon, ça nous donne à réfléchir dans Luc chapitre 18, verset 8. Trouverai-je la foi? C'est pas trouverai-je une croyance? On l'a déjà dit ici. Trouverai-je une croyance, une adhésion? Pas du tout. Jésus, quand il dit trouverai-je la foi, c'est une foi vivante. Une foi qui voit le bras de Dieu agir. Une foi qui est persévérante. Une foi qui ne se laisse pas arrêter par les obstacles. C'est cette foi-là que Jésus veut trouver, parce que dans les événements de la fin des temps, il nous faudra véritablement la foi pour partir avec le Seigneur quand il va venir. Ça ne sera pas automatique, on ne dit pas parce que j'ai fréquenté l'Église, je partirai avec le Seigneur. Pas du tout. Nous avons toutes les exhortations, les enseignements dans la parole de Dieu qui nous disent, eh bien, ce que le Seigneur va venir chercher. Il n'y a juste qu'à méditer l'Écriture, méditer les Épîtres, méditer les Évangiles, pour savoir, eh bien, quelles caractéristiques auront ce que le Seigneur viendra chercher. Si nous ne vivons pas par la foi, j'allais dire que c'est obligé, entre guillemets, étant chrétien, nous devons vivre et marcher par la foi. Mais si nous n'avons pas cette foi véritable, vivante, dans un Dieu vivant, eh bien, il nous reste quoi? Il nous reste nos limites humaines, l'inquiétude, l'angoisse. Quand il y a la maladie, quand des enfants sont éloignés, quand il y a une perte de travail, perte d'un être cher, la crainte de la mort, etc. Que nous reste-t-il si nous n'avons pas la foi? Il va nous rester cela. Et nous verrons ces choses, et uniquement ces choses, devant nous, au lieu de voir Jésus. Parce que la foi véritable, et nous le verrons dans le message, la foi véritable, c'est de voir Jésus. La foi véritable, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au chapitre 12, et nous y reviendrons, il dit « ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection ». La foi, c'est de voir Jésus. Voir les problèmes, oui, mais voir la grandeur de Jésus. Que Dieu nous aide. La foi en Christ nous fait entrer dans le repos de la foi. On sait que nos vies sont dans la main du Seigneur. On sait qu'il est souverain, on sait que l'avenir lui appartient. L'avenir appartient au Seigneur. On peut s'agiter, s'inquiéter, Jésus le dira lui-même, avec vos inquiétudes, ajouterez-vous une coudée à la durée de votre vie? Non, non, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. L'avenir appartient au Seigneur. Quand nous lui avons confié notre vie, eh bien, l'avenir lui appartient. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, je lis un seul verset, il nous est dit « car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Moi, je trouve que là, c'est quand même triste, c'est dur, ça interpelle. La parole est annulée. La puissance de Dieu est annulée. Les promesses sont comme un livre ordinaire. Parce que la foi n'y est pas, tout est annulé. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce, etc., c'est annulé. Ça veut dire que ça ne sert à rien. On peut même prier, ça ne sert à rien. On peut les lire, ça ne sert à rien si nous n'ajoutons pas la foi à la parole de Dieu. C'est quand même dur. Il nous est dit qu'une partie du peuple n'est pas entrée parce qu'ils n'ont pas cru, eh bien, la parole qui leur était annoncée, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans ce repos de Dieu. Jésus exhorte ses disciples à un moment, dans Marc au chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit « ayez foi en Dieu ». C'est une exhortation vibrante, il les interpelle, peut-être ils discutaient les uns les autres, oui, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Jésus intervient et il leur dit « ayez foi en Dieu ». Quelle exhortation vibrante que le Seigneur va leur donner. Hébreux 11,6 nous dit « or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe, c'est un minimum, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, un Dieu vivant, un Dieu qui exauce, un Dieu qui pourvoit. Voilà, de croire que Dieu existe, C'est mieux que rien, j'allais dire, entre guillemets. Croire qu'il a créé toute chose, c'est bien. Croire qu'il est grand, mais c'est bien. Mais ensuite, croire qu'il agit dans nos vies, qu'il se manifeste, c'est encore autre chose. Ça, c'est la foi vivante. La foi vivante. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On peut avoir des qualités humaines, une bonne moralité, on peut bien se comporter, bien se conduire, mais cela ne suffit pas, ou j'allais dire, cela n'entre pas en compte dans ce qui est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est de voir ses enfants placer Jésus sur le trône de notre cœur. Voir sa justice à lui nous couvrir, voir sa grâce nous couvrir, voir son salut nous couvrir. Parce qu'on peut essayer de bien faire les choses, mais si la grâce de Dieu n'y est pas, ça sera juste une morale. C'est la grâce de Dieu qui nous change. C'est la justice de Dieu qui nous justifie auprès de Dieu. C'est la justice de Christ. Sinon, on peut essayer de bien se comporter, mais sans la grâce de Dieu, on n'y arrivera pas. C'est la grâce de Dieu qui permet de nous comporter en tant que chrétiens, en tant que disciples, une vie qui plaît au Seigneur par la foi. Par la foi, la grâce se manifeste. C'est de voir Jésus qui nous couvre de sa grâce. Et là, malgré nos erreurs, nos turpitudes, nos échecs, nos chutes, la grâce est agissante. Quel réconfort de savoir que la grâce de Dieu, elle est agissante et elle continue d'agir. Sinon, aucun de nous ne pourrait marcher et encore moins aller au ciel, mais c'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Que Dieu soit béni. En fait, sans la foi au Fils de Dieu, il ne nous reste dans nos vies plus que nos problèmes, nous sommes livrés à nos forces naturelles, il ne reste que nos inquiétudes qui sont là dans nos vies. Combien c'est dommage de passer à côté des possibilités de Dieu, de passer à côté de la puissance de Dieu, de passer à côté de la miséricorde de Dieu, passer à côté parce que, eh bien, il n'y a pas la foi dans notre cœur. Alors la foi nous permet de voir Dieu plus grand que nos impossibilités. J'allais dire que la foi, devant nos obstacles, eh bien, ça devient un tremplin. Dieu agit toujours. Même s'il y a des obstacles infranchissables, la foi nous permet qu'ils deviennent des tremplins pour aller plus loin avec le Seigneur. Il n'y a qu'avec Dieu, hein. Regardez les murailles de Jéricho. Impressionnante muraille. C'était un obstacle infranchissable. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était impossible. Eh bien, Dieu a agi de telle sorte que son peuple a pu faire tomber. C'est Dieu qui a fait tomber, mais au travers de son peuple, qui a obéi, a fait tomber les murailles, et ils ont pu aller plus loin dans le pays de Canaan. L'obstacle est devenu un tremplin pour aller plus loin. Et c'est Dieu qui agit. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors, au fil de cette méditation, on pourrait se dire, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi aussi? Je ne peux pas voir ces choses, la main de Dieu, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu se manifester, le plan de Dieu se réaliser. Et pourquoi pas au travers de moi aussi? Alors, la foi nous permet de voir l'invisible. Il est question de Moïse, il nous est dit qu'il avait, il voyait celui qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. Au travers de toutes les difficultés de l'Égypte, Moïse voyait celui qui est invisible, Dieu. Et Dieu au-dessus de l'Égypte, l'Égypte ne tient pas. Dieu au-dessus de Pharaon, Pharaon ne tient pas. Et Moïse, il avait son regard, et il allait même plus loin, mais nous avons eu l'occasion de méditer sur ce passage de Moïse. Donc la foi nous permet, eh bien, de voir, même s'il n'y a rien, de voir le Seigneur au milieu de toutes les difficultés. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 17, vous connaissez bien ce passage, il nous est dit, 2 Rois chapitre 6 verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chariots de feu et de chars de feu autour d'Élisée. Waouh ! Il était dans une frayeur, ce serviteur. Il dit, nous sommes perdus. L'armée de Syrie était la plus grande armée de ce temps. Il voyait ses chevaux, ses chars de Syrie. Il dit, mais c'est fini pour nous. Et Élisée, un homme de foi, lui, il voyait Dieu au-dessus de cette armée syrienne. La foi nous permet de voir l'invisible et de voir au-dessus, de voir au-delà, de voir plus loin, la foi véritable. Je ne parle pas, bien sûr, on met de côté la croyance. Voilà, je crois en Jésus, Non, la foi au quotidien. Et lui a permis de voir, eh bien, sur la montagne, une multitude de l'armée céleste. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On se dit, mais l'armée de Syrie, c'était quelque chose, hein. Mais l'armée des cieux, c'est autre chose. L'armée des cieux, c'est encore autre chose, et que Dieu nous permette d'avoir les yeux ouverts. Le serviteur voyait la grande armée de Syrie, je l'ai dit, Élisée, lui, voyait l'armée des cieux. Il voyait la grandeur et la puissance de Dieu au-dessus de l'armée de Syrie. Que voyons-nous au-dessus de nos difficultés? Que voyons-nous? Ou est-ce qu'on est toujours en train de dire, oh, c'est impossible, là, si, là, c'est... Est-ce que nous voyons Dieu qui est au-dessus, Jésus, dans sa puissance, dans sa splendeur, qui est au-dessus de nos difficultés, de nos impossibilités? Que le Seigneur nous ouvre les yeux de notre cœur. Et Paul priait pour les Éphésiens, afin que Dieu illumine les yeux du cœur, afin que nous voyons Jésus dans toute sa splendeur, sa grandeur, sa puissance, son amour. Lui, il a une solution. Jésus a une solution. Lui, c'est sûr et c'est certain, il a une solution. Il a un chemin frayé. Il a une porte ouverte. Il a un bras tendu envers nous. Peut-être que tu as devant les yeux des choses qui t'inquiètent et qui t'angoissent, des choses qui sont là et qui sont toujours là, et jour et nuit, que Jésus se révèle à ton cœur, à mon cœur, à notre cœur, qu'il nous révèle sa grandeur, sa puissance, sa splendeur. Frères et sœurs, quand nous voyons Jésus, quand il remplit nos cœurs et nos pensées, eh bien nous ne voyons plus les choses de la même manière, ne voyons plus les choses comme le monde. L'avenir ne nous angoisse plus. Non, parce que nous avons confié nos vies dans le Seigneur. Et il est fidèle pour nous conduire dans l'avenir. Non ? Pour conduire l'avenir de nos enfants, pour conduire, il est fidèle. Et il le fera. Et il le fera. Parce qu'il en a l'autorité, la puissance, il le fera. Parce que nous voyons Jésus, et cela est suffisant. Car il est suffisant, le Seigneur. Il dira avant de mourir sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et dans ce tout accompli, nous pouvons dire qu'il pourvoit aussi à tout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a eu pour but, depuis le chapitre 1er jusqu'au 13, d'élever Jésus. Jésus est plus grand que les hommes, plus grand que Moïse, plus grand que la religion, plus grand que les rites, plus grand que toutes les convictions humaines. Jésus est plus grand. Il est le grand souverain sacrificateur. Il est celui qui a traversé les cieux, il est celui qui a déchiré le voile, il est celui qui est entré comme précurseur dans le lieu très saint, il est celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Nous l'avons vu, je ne sais plus quel dimanche, mais Jésus intercède pour nous en ce moment même. Alors il est 10h57, Jésus est en train de prier pour nous. Jour et nuit, il intercède. Ça fait du bien de le savoir, de se le remémorer, et de ne pas ruminer, mais de dire, Seigneur, tu es bon, j'ai envie de te louer. La foi, elle est aussi, elle anticipe, Elle nous permet de nous préparer. Elle nous permet de nous préparer. Je ne vais pas souligner le fait de nous préparer pour l'enlèvement. On a touché un mot, mais elle nous permet de nous préparer. Et là, nous avons dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 44. Vous connaissez bien aussi ce passage, mais un roi, 18, 44. À la septième fois, il dit « Voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » Élie dit « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Le plan de Dieu se poursuit. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on y est inclus dedans ou pas, je ne sais pas, ce matin, voilà, mais le plan de Dieu, il se poursuit toujours. Et à ceux qui ont la foi, ça permet d'anticiper, de se préparer pour les projets, pour l'œuvre que Dieu a. C'est pas comme ça, quelqu'un, voilà, il est... Non, Dieu prépare, toujours. David a été préparé. Et là, dans ce texte, il dit, attelle le char, prépare les choses parce que la bénédiction arrive. La pluie va venir, qu'on ne se laisse pas surprendre. Donc, il anticipe. La foi nous permet d'anticiper sur les projets de Dieu, le plan de Dieu. Cette foi nous permet d'anticiper. Alors qu'il y avait la sécheresse, le jugement de Dieu, tout était à l'arrêt, statu quo, aucune possibilité. Élie a le contact avec le ciel. Élie a le contact avec le ciel, il a le contact avec Dieu. Il sait que le plan de Dieu va se poursuivre malgré la sécheresse, malgré tout ce que... il sait que Dieu a des projets et il anticipe, il prépare les chars, non en fonction de la situation, mais en fonction des projets de Dieu. C'est bon d'avoir contact avec le ciel, d'avoir contact avec le Seigneur. C'est bon parce qu'il est celui qui nous parle et il nous permet de nous préparer, d'anticiper. Le Seigneur nous permet cela par la foi. Cela me fait penser aussi à la situation que nous traversons. Nous pourrions être dans une passivité, voilà, un attentisme, en disant, nous, voilà, on a les yeux rivés sur les chiffres chaque jour qui nous sont donnés. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que nous avons les yeux rivés sur celui qui a tous les projets et les plans? Lui, malgré l'état de statu quo un peu, de l'Église, il a toujours des projets et il prépare dans l'ombre des hommes et des femmes à le servir. La foi anticipe malgré les circonstances, malgré le statu quo, malgré l'arrêt, eh bien Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue toujours son œuvre. Dans Jérémie 29, 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, etc. » Un témoignage dans l'histoire de l'Église, le 12 mai 1807, Robert Morrison, parti pour la Chine, ça a été le premier missionnaire protestant qui est parti pour la Chine, et il y restera, il servira le Seigneur 27 ans dans ce pays. Quelqu'un lui demanda avec dérision s'il comptait convertir la Chine. Alors lui, il répond, non, mais j'espère que Dieu le fera. Pas moi, mais Dieu le fera. Quand il a baptisé son premier converti au bout de 7 ans, quelqu'un a dit... au bout de 70 ans, il y en aura 10. Combien de temps? Et quand il a baptisé son premier converti, dans son journal intime, il y a écrit ceci. Puisse-t-il, ce premier baptisé, puisse-t-il être les prémices d'une grande moisson, le premier des millions qui vont suivre avant le retour de Jésus? Par la foi. Lui ne se doutait pas, il ne savait pas ce qu'il y aurait dans la suite. L'arrivée de Hudson Taylor, la mission à l'intérieur de la Chine, il ne savait rien. Lui, il a baptisé, il dit que ce soit le premier des millions qui vont suivre. Aujourd'hui, on estime, parce que c'est très difficile d'avoir les chiffres, mais entre 120 et 150 millions de chrétiens en Chine. C'est beau. Le premier baptisé en 1814, premier baptisé, et cet homme qui prophétise quelque part, qui anticipe et qui voit l'œuvre de Dieu tellement grande parce que Jésus est tellement grand. Quand nous regardons la vie de ces hommes, de ces femmes du chapitre 11, ils n'étaient pas parfaits, nous le savons, il y a des noms que nous voyons là, ils n'étaient pas parfaits du tout, Gédéon, bon, Barak, Samson. Jephté et David, waouh, on se dit, bon, ils n'étaient pas parfaits, ils ont commis des erreurs, mais ils ont vécu par la foi. Leur nom, ce que Dieu a retenu, c'est que ces hommes ont vécu par la foi. Ils ont marché par la foi. Et donc, ils ont été agréables à Dieu, malgré les erreurs qu'ils ont commises, parce que nous le savons, nous connaissons ces noms, mais ils ont été agréables à Dieu. Waouh, c'est beau de voir que le Seigneur retient cela, qu'ils lui ont fait confiance malgré leurs limitations. Ils ont vécu par la foi et le Seigneur les cite en exemple, en modèle. Alors certains ont obtenu ce qu'il leur était promis, c'est formidable. D'autres ont refusé la délivrance, au verset 35. Bon, ils ont refusé, c'est quand même, ça vous étonne pas ça ? Ils ont refusé la délivrance. Ils auraient pu vivre mieux, être à l'aise au large, mais il dit non. Nous, on comprend que le plan de Dieu, il dépasse cette vie terrestre. On comprend qu'il y a quelque chose de spirituel, de tellement grand dans les cieux, et ils avaient compris par la foi, ils avaient compris ces choses. Et il dit non, nous, on n'accepte même pas la délivrance. Il faut une foi plus grande que de recevoir les promesses. Et enfin, il nous est dit au verset 39, nous l'avons lu ensemble, « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, donc ceux qui ont suivi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Eux, ce n'est pas qu'ils ont refusé, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il faut quand même une foi biblique, une foi vivante pour rester confiant en Dieu, même s'ils n'ont pas eu ce qui leur était promis. Ça leur était promis, mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils sont restés attachés. Et je pense, bien sûr, quand je relis ces versets, je pense aux compagnons de Daniel, qui ont été jetés dans la fournaise. Ils ont dit, nous, qu'ils nous délivrent ou qu'ils ne nous délivrent pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Ça veut dire, en clair, nous, on est attachés à Dieu. Qu'il fasse ce qu'il veut, on a confiance en lui. Si on doit périr, on périra. Mais on a confiance en Dieu. On le connaît tellement comme un Dieu, un Père, et on lui fait confiance. Même s'il ne nous délivre pas, on se prosterne, on restera fidèle à Dieu. Ben, il faut une dose de foi, parce que nous, on en parle avec le recul, mais eux, ils sentaient la chaleur du four qui était chauffé 7 fois plus. Ils avaient déjà la chaleur qui était là, et il dit, nous, on est prêts à mourir. Et dans l'histoire de l'Église, on voit les martyrs. Et quand on lit certaines biographies, on se dit, mais comment ils sont allés en vainqueurs sur le bûcher Ils aimaient tellement le Seigneur. C'est des exemples pour nous, des modèles que Dieu nous aide à lui faire pleinement, pleinement confiance. Enfin, n'oublions pas que ces témoins cités dans tout le chapitre 11 vivaient sous l'ancienne alliance. Alors je me dis, là, j'en ai pris un coup en me remémorant ça. Ils vivaient dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance. Et ils ont pu vivre ce qu'ils ont vécu, par la foi. Alors je me dis, là, c'est une claque. Ils avaient l'ombre des choses à venir. Nous avons la réalité en Christ. Ils avaient les sacrifices, mais nous avons l'accomplissement du sacrifice parfait de Jésus. Ils ont salué, ils ont vu de loin la venue de Jésus, ça a été prophétisé, mais ils ne comprenaient pas trop. Mais nous le connaissons personnellement, Jésus. Ils en savaient si peu, et nous en savons tellement. Je me dis, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, mais Seigneur, vivre par la foi pendant le temps du pèlerinage terrestre ou de ce qui nous reste avant le retour ou quand le Seigneur décidera. Mais eux, ils ont vécu comme ça, avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils savaient, avec ils n'avaient pas les choses vraiment, c'était l'ombre des choses à venir. Le Saint-Esprit descendait de temps en temps, il venait sur quelqu'un, il le saisissait. Nous, nous avons le Saint-Esprit. Alors, donc, s'ils ont eu une vie de foi, une vie qui a été agréable au Seigneur, à plus forte raison, nous devons et nous pouvons, les uns et les autres, vivre par la foi, avoir une vie qui plaise à Dieu, malgré nos limites. Mais une vie qui plaise à Dieu, parce qu'il y a la grâce de Dieu pour le présent et pour l'avenir. Alors, la liste de Hébreux 11, elle est finie là, mais elle n'est pas clôturée. Il y a nos noms qui doivent apparaître sur cette liste de Hébreux 11. Ça va continuer. Je schématise, bien sûr, voilà, mais que Dieu nous aide, même si nous ne sommes pas parfaits, que la foi domine dans notre vie. Que nous puissions toujours voir Jésus dans sa grandeur, dans son amour, dans sa puissance. Il y a un problème, je veux voir Jésus au-dessus. Alors, nous vivrons dans le repos de Dieu. Quoi qu'il arrive, il est vivant. Son plan va se poursuivre. Dieu sait ce qu'il fait, même au travers des temps de crise comme nous vivons. Dieu est souverain. Hébreux 12, 2, je le relis. « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Alors il y avait ce chant qui résonnait, « Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt et je le verrai de mes yeux. » Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, merci pour ces exemples qui nous disent « Vous pouvez marcher par la foi. » Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage dans la foi, qui nous stimule, qui nous exhorte à voir Jésus partout et voir Jésus plus grand que tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques, Seigneur. Que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts, les yeux de notre cœur, qu'ils soient illuminés pour voir quelle est la grandeur, la puissance, l'héritage qui s'attache à la personne de Christ. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions avancer par la foi. Par la foi, Seigneur, nous voulons compter sur toi en toutes choses. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, il y a